Maxime Arnet, bonjour.
Bonsoir Guylaine.
Nous sommes ici pour la deuxième émission, Maxime, avec les jeunes européens de Montpellier. Dans une première émission, nous avions évoqué ce que représentait ce mouvement des jeunes européens de Montpellier, une façon de faire vivre l'Europe. Et pour cette deuxième émission, vous avez choisi de nous parler d'un sujet d'actualité en ce mois de novembre, les primaires de la droite et l'Europe.
Alors oui, tout à fait. On a décrypté un petit peu ces primaires de la droite avec l'œil de jeunes européens fédéralistes. Parce que bien sûr, nous aurons les informations que nous allons vous donner, nos analyses vont bien sûr être alternatives avec ce que vous avez pu voir. Alors d'abord, première question, en parlant de l'Union européenne, qui est quand même un grand enjeu, et je le rappelle que la France est pays fondateur de l'Union européenne. Alors, comment ont parlé les 7 candidats lors de ces primaires de l'Europe ? Notamment, ils devaient en parler lors du deuxième débat. Ils n'en ont pas parlé du tout.
Du tout, vous êtes bien sûr d'avoir étudié tous les discours, toutes les interventions.
Sûr et certain, c'était prévu par les journalistes que l'Union européenne était un sujet, ainsi que d'autres, au deuxième débat. Il n'a nullement été mentionné, donc bien sûr pas dans le premier non plus. Et dans le troisième débat, Alain Juppé, vers la fin du débat, a fini par dire, je cite, « On ne peut pas terminer ce débat sans parler un peu plus longuement de l'Europe. »
Il était temps.
Il était temps, en effet. Alors bien sûr, nous, les jeunes européens, France, nous avons déploré ce manque d'attention pour l'Union européenne, qui est un sujet plus que d'actualité, notamment avec les réactions à l'élection de Donald Trump, ou avec en débat aussi également les futures relations avec la Russie.
Mais est-ce que vous pensez que ces hommes politiques délibérément ne choisissent pas de parler de l'Europe parce qu'ils savent que ou ils présupposent que ça n'intéressera pas les électeurs?
On peut supposer que en raison d'une certaine impopularité parfois aux yeux des citoyens, les responsables politiques de droite n'ont pas voulu en parler. Mais moi je m'aventure, parce que je ne suis pas dans leur tête, que pour eux ce n'est pas un enjeu essentiel. Parce que pour eux, notamment, j'en parlerai après de François Fillon, le peser en Europe pour François Fillon, c'est vraiment augmenter la compétitivité de la France et augmenter sa puissance économique.
Très bien, je vous laisse commencer alors avec François Fillon.
Oui, j'ai comparé, bien sûr, François Fillon et Alain Juppé dans leur position. En règle générale, d'abord, François Fillon, l'Europe, ce n'est pas du tout son axe de campagne. Et il faut rappeler que le mentor de François Fillon a été Philippe Séguin. Philippe Séguin qui est clairement hostile au projet européen. Donc nous pourrions classer François Fillon comme un partisan de l'Europe des nations, donc qui rejette théoriquement l'Europe fédérale. Et il considère notamment que la France a perdu de sa souveraineté à cause de l'Union européenne. Alain Juppé, lui au contraire, s'inscrit davantage dans la tradition pro-européenne du centre-droit français. Et il a pu, notamment lors du débat, affirmer son attachement à l'Europe, son enthousiasme, et sa conviction profonde que les États européens doivent être unis pour ne pas devenir des États vassaux des grandes puissances. Voilà, je cite. Au niveau du droit de l'Union européenne, les deux candidats sont assez convergents. Ils considèrent que l'harmonisation réglementaire, du fait du droit européen, passe à côté de l'essentiel, que le principe de subsidiarité n'est pas suffisamment respecté. Le principe de subsidiarité, je le rappelle, c'est au niveau de la répartition des compétences, c'est faire en sorte que pour certaines compétences partagées, c'est d'abord l'Union qui peut prendre le devant pour certaines compétences, mais en même temps, il faut respecter les compétences exclusives de l'État. C'est un peu l'équilibre, hein, je fais ça de manière non juridique et très générale. C'est un peu ce qui permet d'aiguiller la répartition des compétences. Et tous les deux dénoncent aussi la bureaucratie et le fait que le fonctionnement de l'Union européenne est trop complexe. Voilà, donc là-dessus, pas beaucoup de commentaires à faire, parce qu'ils sont d'accord. Seulement, je vais juste reprendre un propos d'Alain Juppé qui dit que l'Union produit trop de normes. Alors, il est intéressant, je pense, pour l'information de nos concitoyens, de rappeler une chose. C'est que, au niveau de la quantité des normes, en 2015, mes sources, c'est Eurolex et Légifrance, les sites d'accès du droit en ligne. Que, par exemple, l'Union européenne, en 2015, a produit 2112 textes, donc qui touchent 510 millions de citoyens. Alors qu'en France, pour 66 millions de citoyens. Cela représente 16 663 textes. Bon, après, bien sûr, le droit français, vous avez des textes de droit mou ou des textes qui sont, qui ont moins de force normative, comme les circulaires, qui sont comprises dedans. Et dans tous les ministères, on fait des circulaires. Donc, beaucoup de... Après, c'est normal qu'à l'échelle nationale, il y ait un peu plus de normes. Et évidemment, la répartition des compétences... De l'État, l'État garde une majorité de ses compétences. Il n'est pas complètement asservi par la dictature de l'Union européenne, comme le disent certains. Donc c'est un peu normal. Mais pourquoi je dis cela ? C'est que malgré ces textes-là, c'est l'Institut Jacques Delors qui a rappelé que la législation européenne représente 20%, a un impact de 20% à peu près sur notre législation nationale. Que ce soit les règlements, qui sont... produits par l'Union européenne et qui ont un impact direct, mais également, bien sûr, l'instrument beaucoup plus connu que sont les directives, qui supposent ou on laisse à l'État plusieurs années pour transposer selon leurs spécificités.
Vous êtes en train de nous dire que finalement, cette critique est nulle et non avenue. La critique du nombre de textes.
Oui, que l'Union produit trop de normes, je ne suis pas d'accord. Et justement, il y a peut-être des domaines où il manque des normes. Et ils le disent eux-mêmes. Et par exemple, je voulais en venir sur les propositions qu'ils font. Tous les deux, François Fillon et Alain Juppé, considèrent qu'il faut davantage d'harmonisation fiscale et sociale. Mais soit elles sont imprécises, c'est le cas pour Alain Juppé, soit François Fillon, cette proposition le restreint à la zone euro.
Donc c'est incomplet dans les deux cas.
Oui, c'est incomplet dans les deux cas.
Avez-vous relevé autre chose ?
Oui, peut-être nous pouvons parler des propositions que font les deux candidats. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit au début, vu que ce n'est pas que les deux candidats parlent très peu d'Europe, il n'y a pas énormément de propositions.
Mais le sujet va être vite clos.
Oui, le sujet va, hélas, va être très rapide. Alors... Par exemple, d'abord, François Fillon, lui, il s'axe surtout sur la zone euro. Il considère que l'intégration doit être davantage centrée sur la zone euro. Il propose notamment la création d'un parlement de la zone euro. Ça a été notamment porté par Nicolas Sarkozy autrefois. Il se prononce également pour la nomination d'un ministre des Finances permanent pour la zone euro, mais également aussi pour l'harmonisation fiscale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais hélas, rien de plus pour François Fillon, qui ne parle quasiment jamais d'Europe. Pour Alain Juppé, il se prononce sur un peu plus de sujets. Quand il parle d'Europe, dans les débats, quand il a pu parler d'Europe, Alain Juppé, c'est surtout pour s'axer sur la sécurité. Notamment, il considère qu'il faut mettre plus de moyens, et ça commence à se voir dans le futur budget 2017, Alain Juppé va accorder plus de moyens pour la sécurité de l'Union, donc l'aide de l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour renforcer le contrôle des frontières extérieures. Ça, c'est pour l'immigration, c'est autre chose. Notamment pour améliorer le contrôle frontières extérieures. Et également de faire d'Europol et d'Eurojust une vraie police et une vraie justice criminelle à l'échelle européenne.
Ce sont des informations assez attendues de leur part. Il n'y a pas de surprise.
Oui, bien sûr. Après, la droite française a choisi quelques thèmes de campagne. Et ils s'axent clairement dedans. C'est une stratégie. Car bien sûr, leur but, c'est de se faire élire dans le cadre de la primaire. Donc, hélas, ils n'ont pas pu parler de sujets européens qui sont pourtant essentiels, mais qui n'intéressent pas aujourd'hui peut-être les électeurs de droite et du centre. Mais bon, à mon avis... L'homme politique doit aussi savoir orienter les citoyens sur les enjeux à venir et non pas seulement écouter les sirènes de l'opinion publique. Et une chose importante, Alain Juppé également est prêt à jeter les bases d'une Europe de la défense, relancer cela. Bon, après, si j'ai bien compris, ce n'est pas pour il ne se prononce pas directement sur une armée européenne, mais plutôt sur une collaboration industrielle. Dans un premier lieu. Et peut-être d'autres thèmes où il se prononce, c'est par rapport au Brexit. Alain Juppé, lui, est favorable, si je puis dire, pour un hard Brexit, c'est-à-dire que les Anglais ont choisi de partir, il n'acceptera pas dans les négociations qu'ils puissent encore, comme ils ont fait pendant longtemps, négocier. Voilà, c'est, vous avez choisi de partir, vous l'assumez. Et cela, il voit notamment dans ce Brexit l'occasion de relancer le couple franco-allemand comme moteur de l'Union européenne. Et enfin, je pourrais terminer là-dessus, qu'Alain Juppé aussi prône une mise en place d'un agenda de compétitivité numérique pour l'économie européenne, mais ce qui est déjà ce qui est dans la ligne de, actuellement du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Voilà. Mais après, bien sûr, ce que nous déplorons, nous, les jeunes européens en France, c'est que, certes, il y a certaines propositions qui sont intéressantes, qui sont à étudier, à mettre sur la table. Cependant, aucune réforme de fond dans les institutions qui va changer demain la face de l'Union européenne n'est proposée, et nous le déplorons.
C'est vrai que ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que ça manque un peu de souffle. Il n'y a pas de vision de l'Europe nouvelle attendue.
Oui, moi j'ai l'impression que ce sont des propositions de gestionnaires de l'Europe. On va faire des réformes conjoncturelles, on va peut-être au niveau du budget inverser un petit peu, mettre plus pour les jeunes ou plus pour la sécurité, mais il n'y a pas de réforme de fond. Et c'est ce qui manque aujourd'hui.
Si vous aviez été, vous, candidat aux primaires, à droite, parce qu'on parle des primaires de droite, quelles auraient été vos trois propositions ?
Après, juste avant de vous répondre, j'insiste sur une chose, c'est que, en règle générale, les candidats à la présidence de la République française font des promesses, des propositions que je ne citerai pas, qui sont démagogiques, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils vont renégocier un traité ou qu'ils vont changer ceci, cela en Europe, alors que ça ne dépend pas d'eux. Pas seulement d'eux. Donc ça, il faut bien le préciser, et c'est pour ça que j'attire les citoyens à rester vigilants sur les propositions qui sont faites par les candidats sur l'Europe. Après, ce que je pourrais proposer, moi notamment, je suis très attaché sur améliorer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne si nous ne voulons pas que l'Union européenne meure demain.
C'est déjà votre travail en tant que mouvement des jeunes européens au Montpellier.
C'est surtout le travail en tant que jeune européen à Montpellier. D'abord, il faudrait faire une réforme par rapport aux élections. Aux élections pour mieux impliquer le citoyen. D'une part, ce que nous pouvons proposer, c'est que les listes électorales ne soient pas seulement des circonscriptions au sein d'un pays. Il faut des circonscriptions qui sont transnationales.
Comment c'est possible ?
Mais pas seulement, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on ne peut que déplorer que les élections européennes en France, c'est une élection intermédiaire, purement intermédiaire, où les Français l'utilisent comme un vote sanction au-delà de l'abstention. Et justement, bien sûr, il faut l'imaginer. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, peut-être une circonscription à plus grande échelle impliquant des listes. Impliquant des futurs eurodéputés italiens ou français, par exemple, vous voyez. Parce que, aussi, comme c'est présenté sous l'angle des partis politiques français. Et c'est pas présenté sous l'angle des partis politiques européens. Par exemple, l'Alliance européenne de libre-échange... pardon, j'ai n'importe quoi. Vous couperez ça. Vous couperez ça. Les libéraux pour l'Europe, dirigés par Verhofstadt, l'ancien Premier ministre flamand, justement, l'UDI et le MoDem en France sont rattachés à ce même groupe politique au Parlement européen. Ils sont dissociés en France, mais ils sont les mêmes à l'échelle européenne. Donc, les élections telles qu'elles sont faites, il y a une absence de visibilité au niveau des propositions européennes. Ce que nous pourrions améliorer également, c'est évidemment augmenter les pouvoirs du Parlement européen, notamment de lui permettre de... Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans la technicité, d'avoir plus de poids dans la prise de décision de la navette parlementaire par rapport au Conseil de l'Union européenne, mais également d'avoir un pouvoir d'initiative parlementaire, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. C'est comme si les députés et les sénateurs ne pouvaient pas proposer des lois, et que seul le gouvernement pouvait présenter des projets de loi, et eux, on peut seulement les amender. Parce que, bien sûr, la Commission européenne, c'est très indirectement qu'ils sont démocratiques. Et pourquoi il serait plutôt préférable de renoncer à ce que chaque État ait son commissaire européen pour défendre les intérêts du pays dans la Commission européenne et avoir un véritable gouvernement européen. Alors pour l'instant, les hommes politiques, parce que vous voyez les par étapes, sont plutôt pour un gouvernement économique. Mais cela serait une meilleure représentation et aurait peut-être plus d'efficacité d'avoir un gouvernement européen.
Ça me semble être une utopie.
Il faut savoir avoir de l'ambition. C'est les gens qui disent le système a toujours été comme ça, nous ne pouvons pas le changer, ça va pas marcher, alors que beaucoup proposent de le détruire. Moi je trouve ça triste. Hein. Les hommes politiques n'ont aucune ambition pour demain. Et surtout, vous voyez bien l'état de l'Union européenne aujourd'hui, qui pourrait mourir dans un futur proche. Donc s'il n'y a pas un nouveau souffle. Elle ne pourra pas se relever, je pense.
Merci beaucoup, Maxime Arnaud.